Bonjour. C'est vraiment un plaisir d'être ici ce matin. On attendait ce moment-là depuis vraiment un bon bout de temps, de revenir vous voir, de retrouver notre famille spirituelle qui nous est si chère, vraiment. Vous êtes précieux dans nos cœurs, puis c'est vraiment un privilège d'être ici ce matin. Puis je parle au nom de la famille aussi. Les enfants, tous avaient vraiment hâte de venir, de vous voir et puis de passer du temps avec vous. Oui, Chantal. Oui. Tu peux-tu baisser mon son un petit peu? C'est trop fort. Merci beaucoup. Je suis vraiment heureux de constater puis de voir qu'il y a beaucoup de personnes que je ne connais pas. C'est vraiment plaisant de voir que autant de monde puisse venir, puis être présent, puis vraiment prendre part avec la famille spirituelle ici à Saint-Félicien. Je me présente, moi c'est Étienne Brochu, ma famille, Chantal, mon épouse, James, mon plus vieux, Chloé, ma deuxième, Caleb, mon troisième qui est juste en avant là, et puis Elena qui vient de descendre à l'école du dimanche. Ça fait maintenant 2 ans qu'on a quitté la région ici du lac Saint-Jean pour s'en aller en Estrie. On est présentement à Orford, qui est à côté de Magog, puis de Sherbrooke, où est-ce qu'on travaille dans un camp chrétien, dans un camp de vacances. Et on était ici à Saint-Félicien pendant 9 ans. On est arrivé en 2012, puis on est reparti en 2021, décembre 2021, puis on est arrivé en décembre 2012. Donc, on a été ici 9 ans. On a été grandement bénis par les 9 années que le Seigneur nous a données avec l'Assemblée ici. Et puis, ce matin, j'aimerais vous présenter ce que le Seigneur est en train de faire, là où est-ce qu'on est maintenant. Et puis, j'aimerais aussi là, vous apporter un peu la parole, de ce que le Seigneur est en train, de ce que le Seigneur a mis à mon cœur aussi, parce que j'ai su, mon frère Brian m'a informé aussi que vous étiez en train de revisiter des éléments dans l'alliance relationnelle. Et puis, je me souviens très, très bien là, de tout ce processus-là qu'on a fait ensemble en famille pour arriver avec cette alliance-là. Et puis, on va prendre le temps de regarder un de ces éléments-là. Donc, il était supposé avoir... je ne suis pas sûr que c'est la bonne présentation. Ça se peut. Il est supposé avoir un logo, là. C'est pas grave. Donc, ma famille, je vous les ai présentés. Je ne vous ai juste pas présenté mon chien qui est là. C'est Ruby. Ah, il n'y a plus de batterie là-dessus. Si vous voulez, je vais en avoir de besoin. On connaît ça. On connaît ça, des problèmes techniques. C'est normal, la technologie. Donc, c'est ça. Ma famille est là. Et puis, mon chien Ruby, là, il est pas mal plus laid que ça parce qu'on l'a rasé. Fait que... la prochaine diapositive, c'est Robert, tu peux quand même juste cliquer sur le prochain. Là où est-ce qu'on est, ça s'appelle Parkside Ranch. Comme j'ai dit, c'est un camp en Estrie. Ça a été fondé par Fred et Jean Warnold. Par le nom, vous comprenez que c'est un camp qui est à l'origine anglaise. Et puis, avec le temps, yes, non, c'est correct, il n'y a pas de problème. Avec le temps, le ministère est en train de se transformer, puis tout le volet francophone est vraiment en train de grandir énormément dans le camp. Puis Parkside existe dans le but d'aider à apporter la guérison, ainsi qu'une raison d'être grâce à son expression concrète de l'amour de Dieu. Donc, c'est vraiment un camp qui est dédié à démontrer de toutes les façons possibles à quel point Dieu aime les gens et ceux qui se rendent sur le camp, ceux qui participent aux activités d'une façon ou d'une autre. Donc, apporter guérison, on sait à quel point le monde souffre. Le monde souffre aujourd'hui. On a nous-mêmes des souffrances dans nos vies, mais on a le privilège d'avoir le Seigneur qui vient puis qui prend soin de nous, qui guérit, qui console, qui réconforte, qui restaure. Et le monde a besoin de ça, a besoin de cet amour-là, a besoin de Christ. Et c'est vraiment ça qu'on a à l'esprit quand on pense à apporter la guérison. Une guérison, on contribue physiquement, oui, mais spirituellement, émotionnellement, intérieurement, à apporter la guérison dans la vie des gens. L'expression concrète de l'amour de Dieu. Les jeunes ont tellement besoin d'être entendus, d'être écoutés, d'être vus, de se sentir aimés. Ça va tellement vite dans nos quotidiens, ça va vite dans leur vie à eux aussi. Et puis, les jeunes sont juste déstabilisés la majeure partie du temps par l'attention d'un staff, par l'attention d'une personne, quelqu'un qui va l'écouter. Les gens se retrouvent dans un contexte où est-ce qu'ils sont vus, sont considérés, sont écoutés, et puis c'est juste merveilleux de voir tout ce que les jeunes peuvent partager dans un contexte comme ça, qui souvent, dans le quotidien de la vie, de la maison, les jeunes ne se sentent pas nécessairement tout le temps à l'aise de s'ouvrir et puis de partager ce qu'ils ont sur leur cœur. Mais dans un contexte de camp de vacances, avec ce qu'ils vivent, ce que le Seigneur fait dans leur vie, avec les staffs qui sont là pour prendre soin d'eux, pour les écouter, c'est merveilleux de voir ce que le Seigneur fait. Puis le travail qui se fait dans leur vie, dans leur cœur. C'est un privilège de pouvoir prendre part à ça. Parkside, c'est le fruit d'une graine de moutarde. Pourquoi qu'on dit ça? C'est parce que Fred puis Jean avaient une mission dans leur cœur. Puis ils voulaient atteindre la jeunesse du Québec avec l'Évangile. Puis le Seigneur leur mettait quelque chose sur leur cœur. Puis ils ont dit, on espère, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Ils ont juste parlé de l'idée de partir un camp de vacances dans une des lettres de nouvelles qu'ils donnaient. Et puis, quelques temps après, ils ont reçu un chèque de 10 $. Et puis là, ils ont dit, ça y est, on a la confirmation, c'est un plan de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Donc, on fait une mise de fonds sur un terrain. Fait qu'ils ont réhypothéqué leur maison. Donc, avec un 1 000 ils ont fait un dépôt. Ils ont fait une offre d'achat sur un terrain. Puis, ils ont eu le terrain. Et puis, c'est là où qu'on est situé encore aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, Parkside, c'est 400 acres de terrain. Je vais vous donner quelques chiffres tantôt aussi. On a une propriété aussi sur le lac. Et juste à côté, le lac à la Truite, on a 800 mètres de propriété ici, sur le côté du lac. C'est vraiment merveilleux de voir qu'est-ce que Dieu a fait juste d'un désir, d'un fardeau qui est mis sur le cœur d'un homme, et puis un pas de foi. Qu'est-ce qu'un pas de foi a fait? Et puis, c'est une chose de faire le paiement, le premier paiement, puis d'avoir l'offre d'achat, c'est beau, mais après ça, t'as pris un prêt, là. T'as d'autres paiements à faire, là. Le mois suivant, tu peux pas réhypothéquer la maison encore, là. Et puis, les premiers mois, ça génère aucun revenu, ça, là. Donc, c'est beau de voir comment est-ce que le Seigneur a pourvu, parce que sur le terrain, à peu près ici, il y avait comme une montagne de roches. Il y avait une grosse montagne, puis la ville arrive, puis elle dit, on a besoin de gravier pour construire les routes, puis tout ça. Ils disent, est-ce qu'on peut prendre la roche sur votre terrain? Et puis, oui, il n'y a pas de problème. Fait que pendant plusieurs années, ils ont tout grugé la montagne qui était ici. Et puis, à tous les mois, il y a un chèque qui rentrait. Ça couvrait l'hypothèque, puis un petit peu plus pour d'autres dépenses, puis des salaires comme ça. Et puis, quand le terrain a fini d'être payé, bien là, il n'y avait plus besoin de gravier. Puis, ils ont tout aplani le terrain, ce qui fait qu'une majeure partie de nos installations n'aurait même pas pu être là aujourd'hui, parce que le terrain n'aurait pas été utilisable ou approprié. Fait que c'est bâti sur le roc, et voilà. Il y en a de la roche là-bas. C'est vraiment, il y en a partout. Mais c'est beau de voir comment est-ce que Dieu va prendre une chose et Dieu va la rendre possible. Et de voir aujourd'hui, Parkside, comment est-ce que ça s'est développé. Il y a trois volets, il y a trois piliers au ministère là-bas. Naturellement, il y a le ministère des camps, là où est-ce que moi je suis impliqué. Il y a le ministère aussi au niveau des événements, l'hospitalité. On reçoit des groupes pratiquement maintenant tous les fins de semaine. Ça s'est développé énormément. On reçoit des églises, on reçoit des entreprises, des gens qui viennent faire des retraites aussi. Et ils viennent avec leur programme. Nous, on prête les installations. Et puis, on assiste un peu une fois de temps en temps. On leur donne un coup de main avec certains éléments. Mais c'est vraiment juste un centre d'hospitalité, de tranquillité où ce que les gens peuvent venir puis se ressourcer. Juste par la nature des installations, l'endroit où est-ce que c'est, ça donne un environnement où est-ce que c'est ressourçant. C'est ressourçant de se retrouver dans la nature, de se retrouver dans un contexte comme ça. Juste le lieu, le site, Dieu l'utilise pour faire du bien. Et puis, vraiment ramener les gens à lui à travers ce pilier-là, qui est aussi... naturellement, un des moyens là, de soutien pour le camp. Toutes les locations qu'on fait, c'est vraiment une source de revenus vraiment importante là, pour la continuité du ministère là-bas. C'est pas suffisant, comme tous les ministères, la plupart en tout cas, mais le Seigneur pourvoit. Et puis, à travers le centre de location comme ça, c'est vraiment un bon moyen que le Seigneur nous a donné. L'autre côté ici, c'est le volet équestre. On fait beaucoup d'équitation thérapeutique aussi. Au camp, là-bas, on a 20 chevaux. Et puis, Dieu nous a bénis avec un manège intérieur aussi, où est-ce qu'on peut faire de l'équitation à l'année longue, qu'il fasse beau ou pas beau, c'est pas grave. Tout le côté équestre là, peut aller de l'avant. Et puis, on fait environ 300 session de thérapie équine par année. Puis on pourrait en faire plus. C'est vraiment le manque de personnel, le manque de temps. On est en collaboration avec le CLSC là-bas, puis la fondation de l'hôpital qui nous envoie la majorité de nos clients. Donc, on est en très bonne relation avec le CLSC là-bas. Les services sociaux, puis ils nous envoient des jeunes, ils nous envoient des adultes aussi avec toutes sortes de conditions. Puis le contact avec le cheval, la satisfaction d'être sur le cheval, de le diriger, de le contrôler, d'apprendre, ça a vraiment un effet tellement, tellement bénéfique sur l'être humain, sur les enfants, sur les jeunes, les moins jeunes. Tellement de beaux témoignages qui ressortent de ce ministère-là. Et puis, des occasions aussi de rentrer en relation avec ces gens-là. Quand l'enfant est sur le cheval, le parent qui accompagne, il est à côté, puis il attend. Et puis, on a quelques personnes qui viennent simplement être présents puis prendre du temps avec ce parent-là. Inévitablement, s'ils ont besoin de thérapie équine, c'est qu'ils vivent des choses difficiles. Puis ceux qui soutiennent ces enfants-là ou les conjoints de ces personnes-là qui vivent des moments difficiles, qui ont besoin de la thérapie, bien, ils ont besoin d'être entendus puis d'être écoutés aussi. Dernièrement, la semaine passée, l'équipe a eu un excellent temps avec un de ces parents-là qui vient depuis maintenant un bon bout de temps. Et puis, le Seigneur a donné vraiment une belle occasion de pouvoir concrètement aimer cette personne-là, l'écouter, et puis lui présenter l'amour de Christ aussi à travers ça. Donc, c'est vraiment les trois piliers du ministère à Parkside. La majorité des projets qui sont devant nous concernent les camps, concernent le centre équestre. En 2025, on aimerait ça terminer la construction du centre équestre. Il manque un peu de financement, mais il y a plusieurs. C'est juste une question de temps. 2025, en août 2025, septembre 2025, on devrait être en mesure de construire la nouvelle écurie qui va accompagner là, le manège. Ça va nous ouvrir encore plus de portes pour faire grandir ce ministère-là de l'équitation thérapeutique. L'année passée, l'été 2023, en chiffres, on a au total 7 semaines de camp à partir du fin juin jusqu'à deuxième semaine à peu près du mois d'août. On a eu au camp de jour, donc les jeunes arrivent le matin, repartent le soir. Donc, c'est toutes des jeunes de la localité, dans un rayon de 30 minutes de route. On a reçu 294 enfants différents. Et puis, en général, on a 42 jeunes nouveaux à chaque semaine. Donc, on a à peu près la moitié à chaque semaine que c'est des nouveaux jeunes, des jeunes qui repartent, puis des nouveaux qui arrivent. Mais on a la moitié du groupe, c'est des jeunes qui reviennent plusieurs semaines dans l'été. Donc, c'est vraiment plaisant de pouvoir développer cette relation-là avec ces jeunes-là. À la fin de l'été, on les connaît bien, ils nous connaissent bien aussi. Donc, c'est vraiment plaisant. 200 familles au total, et puis 90% de ces jeunes ne viennent pas d'un milieu évangélique. C'est des jeunes qui n'entendent pas parler du Seigneur à l'extérieur du camp. Le camp, c'est vraiment une opportunité pour eux d'entendre, d'apprendre c'est qui Dieu, simplement. C'est plus quelque chose qui est enseigné dans la société. Les parents sont contents de nous envoyer leurs enfants, premièrement, parce qu'ils ont beaucoup de plaisir. Les enfants s'amusent vraiment gros. Puis aussi parce qu'ils ont l'occasion, justement, d'apprendre sur ça. On demande aux parents, les parents nous demandent, c'est quoi ces affaires-là d'histoire biblique? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Bien, on présente les vérités de l'Évangile, on raconte les histoires, puis on présente qui est Jésus. Ah, c'est le fun, ils l'apprennent pas ailleurs. Et puis c'est toujours dans un contexte de respect, puis de conversation, on présente, et puis les jeunes répondent, ça leur appartient. Oui. On commence à partir de 5 ans pour les camps de jour. Et puis, en général, là, vers 14 ans, c'est pas mal les plus vieux qu'on a au niveau du camp de jour. Ouais. Donc, on a 100 jeunes par semaine, des groupes de. 50 au niveau des plus jeunes, 50 au niveau des ados. Donc, on a 100 jeunes par semaine. Et puis, c'est ça, au total, il y a eu 300 enfants différents à travers ces 7 semaines-là. Donc, c'est vraiment une opportunité merveilleuse qu'on a de pouvoir atteindre ces gens-là, puis ces jeunes-là, puis leur présenter l'Évangile. Au niveau des camps de vacances, on a 3 semaines de camps de vacances, 173 participants l'été passé. On a atteint 32 familles à travers ce ministère-là, puis on touche beaucoup plus grand là, en frais de rayons de superficie, si on peut dire, d'atteinte. Là, on va jusqu'à Montréal. Il y a des jeunes qui viennent aussi des États-Unis. Il y a des jeunes qui viennent d'un peu partout à travers le ministère des camps de vacances. Donc ça a été l'été passé. On a eu plein de beaux témoignages. J'aimerais vous en faire écouter quelques-uns pour me prendre quelques temps là, pour vous présenter un petit vidéo. Ça va être sous-titré en français. C'est des témoignages qui ont été pris pendant les camps de vacances, qui sont majoritairement en anglais présentement. Les jeunes, quand ils ne comprennent pas l'anglais, c'est traduit en français pour eux. Les camps de jour sont en français, mais les camps de vacances sont encore en anglais. Et puis, la vidéo, penses-tu qu'il va jouer? Il est supposé être dans le PowerPoint. Yes. On a-tu le son?
I've always been, I don't really, I'm not focused on the sermon, but I feel like when I came here and I'm sitting listening to Paul, I feel engaged and I understand. He's speaking in a language I can more understand than when I'm in church. And I really appreciate Paul, and he speaks to things that we can relate to at our age. And also, I feel like he's taught me that, like, God isn't just this angry, like, man that watches your every move and, like, you have to, like, I feel like he taught me that God wants to have a relationship with you and he loves you. And that's really important to me because people on this earth will always let you down. But Paul taught me that God's always there for you and he's never going to leave you. And that's important to some people who don't get that kind of relationship with people on this earth. Because God is their true father, and he's important to, you're important to him, everybody. And Paul taught me that no matter what you do, like, you can always be forgiven, and that's so important to some people. I honestly completely agree with with Gwen, but every time I come to Parkside Ranch, I always feel like I come closer to God with my relationship with Him. I, over the years, focus on school, homework, I feel like I get driven away from Him. So every time I come here, I feel like I just get closer, and I just start reading the Bible, getting, like, I understand more, and it just really helps me to understand things, and I just can't explain it. It's just such a good feeling. Thank you so much, Paul. You've taught us so much.
Hello, everybody. I just wanted to say that thank you, Dante, for organizing all the cool activities, and thank you, the staff, for like making it even more fun. And thank you, Paul, for teaching us about God. Because before this camp, I didn't really, like, I knew that God was real, but, like, I didn't really, like, think of Him as much as now. And now I believe in God more than before.
So my entire life, I've never really been, you know, Christian. I've never really believed in God. It just never clicked for me. But after going here, at first I really did not want to go here. I was begging my mom for to like, you know, let me stay home. But now I don't even want to leave. And now, thanks to, you know, everyone here and shout out to Anita and stuff, I'm beginning to learn a lot about God and, you know, the gospel is. I'm learning a lot and I'm thankful for that. I'm just really grateful, and I think this is a really good tool to, you know, like you know, you talked about the calloused hearts and how some people are really stubborn and they don't want to open their hearts up to God, but I'm opening my heart up to God.
Amen.
Sorry. Et ça continue. C'est merveilleux de voir ces jeunes-là qui ne trouvent pas vraiment d'environnement dans leur quotidien pour réfléchir à Dieu, pour apprendre à connaître Dieu. Parce que à chaque fois dans la société dans laquelle on vit, en général, à chaque fois que tu ouvres une discussion sur la personne de Dieu ou que les gens découvrent que toi, tu t'intéresses à ces choses-là, tu te fais tout de suite pointer du doigt. Et puis, tu te fais rejeter, tu te fais moquer, et puis, ça fait que en général, les jeunes coupent cette option-là assez rapidement dans leur vie. Parce que ils ont tellement peur du rejet. Parce qu'ils cherchent un endroit où est-ce qu'ils se sentent. Ils se sentent accueillis, se sentent aimés, se sentent chez eux. Et puis, ouais, ça a été tout qu'un témoignage aussi. Elle venait de perdre sa grand-mère juste avant de venir au camp. Puis elle ne voulait pas venir parce qu'elle avait peur de pleurer devant les autres. Et puis, au milieu de la semaine, elle se sentait tellement près des jeunes avec qui elle était dans sa cabine, puis elle a pu s'ouvrir, puis ils ont pleuré ensemble, puis ils l'ont consolée ensemble, puis ils ont pu incarner l'amour de Christ pour elle à travers ce temps-là. Et puis, elle a complètement été désarmée ou désemparée. Wow! Dieu m'aime tellement. Puis, à travers ça, il y a tellement de belles histoires comme ça. Ces jeunes-là, ils découvrent un endroit où est-ce qu'ils peuvent réfléchir à la personne de Dieu, apprendre sur lui, puis c'est normal de le faire. De ne pas avoir peur de poser des questions, parce que si je pose des questions, ça ne sera pas stupide, ça ne sera pas ridicule. Donc, ils peuvent réellement considérer puis ouvrir leur cœur au Seigneur. Puis ils savent que s'ils reviennent l'année d'après, s'ils n'ont pas de soutien ou ils n'ont pas de communauté chrétienne au courant de l'année, bien ils savent qu'à Parkside, ils vont retrouver ça puis ils vont pouvoir continuer dans leur cheminement dans l'année. Oui? Bien, les camps de vacances sont encore en anglais. Mais les camps de jour sont en français. Mais là, c'est maintenant, c'est un mix des deux, parce que les jeunes du camp de jour, qui sont rendus plus vieux, viennent dans le camp de vacances, qui, eux, sont majoritairement francophones, mais ils parlent majoritairement bilingue. Les gens sont bilingues là-bas, en majorité. Fait qu'ils peuvent passer de l'un à l'autre, mais quand il y a des jeunes qui ne parlent pas anglais dans un camp, bien, les moniteurs parlent français, toutes les prédications, les enseignements sont traduits en français pour eux. On s'assure qu'ils comprennent vraiment l'essentiel et puis sont accompagnés là-dedans. Donc, c'est...
Vos enfants, vous, quand vous êtes partis d'ici, est-ce qu'ils étaient anglais?
Non. Ils étaient pas mauvais en anglais, mais maintenant, ils se débrouillent beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ouais, ça a été... C'est un bénéfice de côtoyer le milieu anglophone régulièrement. Ouais. Fait que c'est vraiment un endroit où est-ce que les gens peuvent faire ce processus-là dans leur vie. Et puis, on l'a entendu dans les témoignages, l'impact est énorme. Cette année, on a besoin de staff, on a besoin d'aide naturellement pour que ces camps-là aient lieu. Et puis, j'ai à une étape dans le processus pour trouver les staffs, j'interviewe les staffs potentiels. Et puis, il y en a une dans le processus. Elle ne vient pas d'une famille chrétienne. Puis c'est la première fois qu'elle applique pour devenir staff. Et puis, parle un peu avec elle, puis pour découvrir qu'elle a découvert le Seigneur au camp. Et puis, elle persévère dans sa foi, malgré le fait qu'elle ne côtoie pas d'église. Et puis que sa famille, c'est la seule qui a la foi dans sa famille. Et puis, elle veut venir comme staff pour pouvoir passer plus de temps au camp. Et puis, vraiment développer des liens avec d'autres qui partagent sa foi, et puis dans le but de vraiment servir aussi. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus, j'en suis convaincu, dans les prochaines années. Les jeunes du camp de jour découvrent le Seigneur, et puis ils veulent continuer à venir, puis ils vont passer du côté staff, où est-ce qu'on va pouvoir vraiment s'impliquer dans leur vie, puis les accompagner dans leur cheminement d'une façon différente aussi, puis peut-être plus profonde, à travers le contact qu'on a avec eux, un à un. Donc, ça a été une année encore bénie de voir l'œuvre de Dieu, de voir le ministère qui est fait là-bas. C'est vraiment son œuvre. Puis, on est une équipe, puis de voir que le Seigneur pourvoit à chaque année pour la continuité de la mission là-bas. C'est vraiment un privilège. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui. Non. Moi, je viens originairement de la région de Trois-Rivières. Donc, j'avais à peu près 12-13 ans quand j'ai pris une décision personnelle. Et puis, à travers mon adolescence, les choses se sont développées, continuent à grandir, m'affermir dans ma foi. Et puis, je suis arrivé ici... en 2012, comme j'ai dit tantôt. Oui, j'étais ouvrier à temps plein ici à l'église. Bon, on essaye. c'est pas toujours parfait, mais on essaye d'être un modèle comme le Seigneur nous appelle à être un modèle. Puis, ouais.
Est-ce que des jeunes de la région peuvent postuler pour être staff?
Oui. Oui, mais les jeunes de la région, c'est que la majorité de nos postes, c'est des postes bénévoles. Donc, les jeunes qui se cherchent un travail d'été, quand ils apprennent en général que c'est bénévole, ben ils revirent de bord. Quand tu n'as pas la motivation d'être là pour servir le Seigneur, puis de vraiment être là pour ça, en général, les jeunes n'y viennent pas, parce que c'est principalement bénévole. La majorité de notre staff est bénévole, sinon les camps ne seraient pas accessibles. Si on chargerait vraiment le prix que ça vaut, puis si on rémunérait tous nos staffs au salaire minimum, bien, on n'aurait pas de jeunes, là. Ça coûterait... Le staff est logé, nourri, puis on prend beaucoup de temps avec eux autres pour les accompagner. Puis il y a toujours une place là, peu importe, dans le sens que peu importe où ce que les jeunes sont rendus dans leur foi, dans leur cheminement, il y a une place qui va être, excusez, appropriée pour eux de servir au camp. Il y a la cuisine, il y a la maintenance, il y a les chevaux de l'autre côté, il y a être un aide faisant partie de l'équipe pour le camp de jour, il y a toutes sortes d'endroits, ce qui fait que il y a de la place pour venir, peu importe où ce que tu es dans ton cheminement. Ben, je suis parti d'ici. J'ai lâché. Ouch! Ça fait mal. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Oui.
Tu t'es ramassé là-bas dans un camp, mais tu n'as pas d'église là-bas? Ton église
là-bas? Ben, maintenant, mon église est à Rock Forest. Il y a beaucoup d'églises dans la région là-bas. Donc, une église qui fait partie de la même famille d'églises d'ici. Il y a au-dessus de 80 églises dans le Québec qui font partie de la même famille d'églises dans laquelle vous faites partie. Et puis, on s'est joint à une église là-bas.
C'est eux autres qui sont venus chercher toi?
C'est le camp. C'est vraiment le camp, oui. Nous, on avait été là, Chantal, il y a 20 ans, comme moniteur un été. Puis on a toujours gardé contact avec eux, une fois de temps en temps, par-ci, par-là. Et puis, le Seigneur nous a vraiment dirigés vers là-bas. Parce qu'on était très bien ici, là. Vraiment, là. On était très bien. Non. Faut pas voir ça comme ça. Oui. Excuse-moi, Lise. Excuse. Oh, vas-y.
Est-ce que vous prenez des jeunes
d'un
certain âge
pour offrir du temps, travailler? Oui, on a besoin de jeunes et moins jeunes. C'est pas un problème. Oui. Mes parents viennent. Puis ils sont rendus à 70 ans. On a John Francis aussi, puis Lise Francis, que plusieurs dans l'Église connaissent ici, qui ont commencé à s'impliquer dans le camp. Ils sont tellement une bénédiction à toutes sortes de niveaux, un cœur de serviteur, puis ils aiment tellement les jeunes. Puis ils sont rendus avancés là, dans la 60. Ils sont-tu à 80? Non, hein, pas tant que ça. Hein? Mais ils sont. Puis ils ont la santé en général. Oui.
Et si de ce fait on s'implique, est-ce que c'est obligatoire pour toute l'été ou pas?
Non. Ça peut être pour quelques semaines. Il n'y a pas de problème. Oui. Oui, Lise.
Est-ce que tu sais pas, tu comprends toujours que tu vas
faire. Écoutez, il faut être là où ce que Dieu nous veut. Puis si Dieu me reveut ici, ça va nous faire plaisir de redéménager, puis ça ne sera pas avec une lourdeur de cœur, loin de là. C'est pas un fardeau. Je ne l'ai pas encore entendu, moi. Je n'ai pas encore eu cette petite voix-là. Oui, Richard. Oui. On fait du sirop d'érable. J'en ai amené, il m'en reste quoi, 3 bouteilles? Tu nous as donné tout plein. Non, c'est correct. Il nous reste 3 ou 4 bouteilles. S'il y en a qui en veulent, là, on en a dans l'auto aussi. C'est du sirop qu'on produit là-bas. On va piger. C'est du sirop qu'on produit là-bas. Ben oui, on pourrait faire ça. Ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de problème. Excellent. Non. Non. Fait que c'est de voir, là, ce qui est important, c'est d'être là où ce que Dieu nous veut, puis de répondre à son appel, vraiment. Puis c'est ce qu'on a fait en allant là-bas. Et puis, c'est merveilleux de voir tout ce qui s'accomplit, tout ce qui se fait, mais il ne faut jamais oublier une chose. C'est qu'il n'y a rien de parfait dans ce monde. Il n'y a rien de parfait dans ce monde. Les bénédictions de tout ce qui se produit là-bas, c'est beau, c'est précieux, c'est grand, ça a une portée éternelle. On est béni de pouvoir prendre part à tout ça. Mais il ne faut pas diminuer non plus l'œuvre qui se passe ici dans l'Église. Ce qui se passe ici aussi, vient de Dieu. Ce qui se passe ici aussi a une portée éternelle. On est tous appelés à un ministère différent, à une œuvre différente, c'est important de suivre l'appel de Dieu là où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui. Donc, des fois, on pourrait dire, « Ah, ben moi, je veux prendre part à ce ministère-là aussi, je veux. » C'est bien, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas oublier qu'on répond à l'appel de Dieu tous les jours de notre vie, là où est-ce qu'il nous place. Puis le ministère à Saint-Félicien, il est grand. Le besoin, il est grand. Le besoin des frères, des sœurs, ici, à l'intérieur de l'Assemblée, est grand aussi. De s'aimer les uns les autres, de prendre soin les uns des autres, ça a également une portée éternelle. Il ne faut pas diminuer toutes ces choses-là du quotidien que souvent on banalise ou qu'on considère comme étant moins important ou moins grand. C'est pas vrai. C'est vraiment un mensonge. Je considère pas que ce qu'on a fait ici comme étant moins grand que ce qu'on est en train de prendre part là-bas. Absolument pas. Chaque chose que Dieu fait est un miracle. C'est son œuvre à lui selon son plan qui est parfait et éternel. Et puis, on a à rendre gloire au Seigneur pour ça, puis à le louer. Et puis, à être vraiment dans la joie, puis dans la paix, là où ce que Dieu nous a placés maintenant. Si Dieu vous appelle à autre chose, il va vous le montrer. Et puis, les frères, les sœurs aussi, ils vont l'attester, vont le voir. Puis, ils vont prendre part aussi à votre prochaine étape en vous envoyant, en vous soutenant. Et puis, on est vraiment bénis parce que c'est vraiment comme ça qu'on sent qu'on est parti d'ici. On a été envoyé là-bas. L'Église a accepté de nous laisser aller pour l'œuvre du Seigneur parce qu'il nous appelait ailleurs. Puis de cette façon-là, vous prenez déjà part à tout ce qu'on fait là-bas. Vous participez déjà à tout ça, de cette façon-là. Puis c'est une des raisons pour laquelle je suis ici aujourd'hui. C'est pour venir vous donner des nouvelles de ce que Dieu fait, de ce à quoi vous prenez part. Ah, oui. Ça fait partie du plan de Dieu que l'Église envoie. Et puis Dieu bénit l'Église. Il y a 2 ans, il y a plein de monde que je ne connais pas ici, là. Ça, c'est une bénédiction. Et puis ça réjouit tellement mon cœur. Puis j'ai hâte d'apprendre à vous connaître, partager le repas tantôt qu'on va prendre. Si vous pouvez rester, ça serait merveilleux. C'est une bénédiction, ça aussi, qui est une conséquence que vous faites des pas de foi. Puis vous suivez le Seigneur, puis c'est vraiment lui qui dirige. Parce que si ce n'est pas Dieu qui dirige, nos éléments, on veut les garder. On veut les garder pour nous. On ne veut pas les donner. Surtout quand on apprécie, quand ça va bien, on veut garder. Mais Dieu dit non, ouvre ta main, envoie, puis Dieu va prendre soin. Fait que merci de votre foi, merci de votre support, de toutes sortes de façons. Pour notre famille et puis pour ce que Dieu fait là-bas. Et puis, on est vraiment, vraiment reconnaissant de tout ça. Puis, ça nous fait plaisir de venir vous apporter ces nouvelles-là de ce que Dieu fait dans notre ministère, dans son ministère qu'il nous a confié. Quelques photos, le club après école, chacun de ces jeunes-là chemine. On a des camps l'hiver aussi. Et puis, par la grâce de Dieu, Parkside réussit dans un champ missionnaire difficile à atteindre. La nature des installations, tout ça, fait que les gens veulent être là. Et puis, par le fait même, bien, ils découvrent le Seigneur, puis un environnement dans lequel ils peuvent poser des questions, puis cheminer, puis grandir. Donc, pour faire la transition vers la réflexion que je voulais vous apporter ce matin, On vit dans un monde imparfait. Et puis, une des bénédictions les plus compliquées auxquelles les êtres humains sont confrontés, c'est la bénédiction des relations. Les relations, c'est une bénédiction compliquée. Vraiment. Selon ce que Paul Tripp a dit, c'est une citation qui vient de Paul Tripp. Ouais, c'est Paul David Tripp, mais c'est Paul Tripp. Les relations, c'est une bénédiction compliquée. Vous êtes dans une série avec Éphésiens 2, 19. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes co-citoyens, des membres du peuple saint. Vous faites partie de la famille de Dieu. On fait partie de la famille de Dieu. On est dans le Père à travers le Christ. On fait partie de sa famille. Est-ce que ça a toujours bien été dans votre famille? Est-ce que vous êtes toujours bien entendu avec vos frères, vos sœurs? Non, hein? Moi, je suis le plus jeune d'une famille de 5 garçons. J'ai été le souffre-douleur toute mon enfance. Mes frères étaient tous plus grands que moi. J'étais toujours celui qu'on ne voulait pas emmener. Toujours le fardeau de trop. Hein, oui, c'est ça être le plus jeune des fois. C'est pas parfait, les familles. Puis la famille de Dieu, écoute, il y a du monde qui vient de partout, de toutes sortes de backgrounds, de toutes sortes d'histoires, puis là, on est tous mis ensemble. Et puis là, il faut qu'on travaille ensemble puis qu'on collabore ensemble. C'est pas évident tout le temps. Même dans un camp où ce qu'on est là-bas, « Hey, la vie, là, c'est-tu merveilleux? Ils vivent sur un ranch. Les familles servent le Seigneur, ils aiment le Seigneur. Ça va être merveilleux, ça doit être beau. C'est mon rêve. » Déchanter tout de suite, c'est loin d'être parfait. C'est loin d'être parfait. Des conflits, des incompréhensions, des enjeux de nos cœurs qui se manifestent de tellement toutes sortes de façons, des questionnements de « qu'est-ce qu'on fait ici? » On en a eu beaucoup. On était tellement bien, Saint-Félicien. On y a réfléchi, puis on en a pleuré une shot. Mais de toujours se rappeler pourquoi qu'on est vraiment là. Un des éléments de l'alliance relationnelle que le Seigneur avait mis sur nos cœurs, c'est justement exactement ça. La patience et la persévérance. Nous accepterons lorsque notre service ensemble pour Jésus, puis on dit notre service ensemble parce que le Seigneur nous appelle à servir ensemble. On est maintenant une famille. Dieu n'envoie pas les gens tout seuls. C'est une famille. On est ensemble. Dieu nous envoie ensemble pour servir. Lorsque notre service ensemble pour Jésus apportera des souffrances. Puis là, il nous manque le petit bout là. Je vais vous le lire. Nous apportera des souffrances. Il nous appelle à persévérer dans l'amour et à être patients les uns envers les autres. Tellement important. Puis la première chose là-dedans, ça commence avec ça ici. Nous accepterons. Il y a comme un reality check ici, là, tu sais. Accepter que. C'est pas si ça se produit, je vais vivre avec. Non, non, c'est accepte-la. Il y a une réalité qui est inévitable. Servir ensemble, œuvrer ensemble, ça va apporter des souffrances. Ça va apporter des difficultés. Je vais être... brassé dans mes perspectives, je vais être brassé dans les enjeux de mon cœur. Il y a des choses qui vont se produire, qui vont créer des émotions, qui vont créer la pensée qui dit « Ah, c'est tellement difficile, mais sans servir avec les croyants, ça devrait être facile, ça devrait être bon, ça devrait être… » Mais écoutez, il n'y a pas personne de parfait, puis on ne vit pas dans un monde parfait. Puis on est tellement tous différents. Il y a comme, acceptons-le. Ça fait partie du deal. Puis ça fait partie du plan de Dieu. Dieu a choisi d'utiliser des êtres imparfaits pour sa mission, de nous mettre ensemble, justement, pour que nos relations ensemble fassent son œuvre, nous brassent tous et chacun dans nos enjeux personnels, pour nous faire grandir dans la foi, puis nous faire grandir dans notre relation avec Dieu. Et tout ça, ça fait partie du plan de Dieu. Donc, soyons pas surpris. On se le rappelle, moi et Chantal, des fois, on ne fait pas partie, il n'y a rien de parfait ici sur la terre. Il n'y a rien de parfait. Puis, deuxième élément, lorsque notre service ensemble apportera la souffrance, donc ça l'apporte des souffrances, le fait de côtoyer d'autres humains parfaits, imparfaits, ça va apporter son lot de souffrance. Mais ici, il y a un appel à persévérer dans l'amour et à être patient les uns envers les autres. À persévérer dans l'amour. Vous savez, la tendance naturelle de l'être humain quand il se retrouve, surtout dans les relations, c'est de fonctionner comme ceci. En Luc, chapitre 6, versets 32 à 35, ça dit ceci. « Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière? Les pécheurs aiment aussi leurs amis. » Verset 23, « Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendriez-vous à de la reconnaissance? Les pécheurs n'agissent-ils pas de même? Si vous prêtez seulement à ceux qui dont vous espérez être remboursés, quelle reconnaissance vous doit-on? Les pécheurs aussi se prêtent entre eux pour être remboursés. » C'est la façon normale dont on se traite. « Je vais faire du bien à ceux qui m'en font du bien aussi. » C'est donnant-donnant. Il y a un sens de justice là-dedans. Puis les êtres humains, on aime ça, la justice. On aime ça, qu'est-ce qui est juste. Donc, moi, je traite bien ceux qui me traitent bien. Et je vais être généreux envers ceux qui sont généreux. Puis ceux qui ne le sont pas, bien, je les laisse tranquilles. Hein? Pourquoi est-ce que je serais bon envers lui? Est-ce qu'il le mérite? Cette notion-là, là, hein? Lui, il est tellement fin, il est tellement gentil. Je voudrais tellement faire plus pour lui, puis y donner plus, passer plus de temps avec lui, puis le bénir. Tout le monde fait ça. C'est-tu à cette façon-là dont Dieu nous appelle à persévérer dans l'amour? Non, hein? C'est comme notre frère Brian disait, l'humilité, c'est pas son contraire. Là, l'idée, je l'ai perdue. Vas-y, Brian. C'est pas l'absence de l'orgueil, l'humilité. L'humilité, c'est quelque chose qui est actif, hein? C'est pas passif. Mais c'est la même chose avec l'amour. Jésus, tout de suite après, du verset 35, « Vous, au contraire, aimez qui? Vos ennemis. » Puis, « Je t'aime. » C'est pas un amour de loin, là, au bout des bras, là. Non, non, il dit, « Faites-leur du bien. » Ouh! Ouais, mais ils ne méritent pas. Ouais. Prêter sans espoir de retour, ben là, hein? Prêter sans espoir de retour, alors votre récompense sera grande. Vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Votre Père est plein de bonté. Soyez donc bons comme lui. Ouf! C'est ce à quoi on est appelé en tant que croyant. À avoir un amour qui est dans l'action. Pas juste envers ceux avec qui c'est facile et agréable, mais c'est aussi envers ceux avec qui c'est moins agréable présentement dans notre vie. Avec qui c'est plus difficile. Il nous appelle à avoir un amour comme lui, hein? Vous serez les fils du Très-Haut parce qu'il est lui-même bon. Dieu y est comme ça. Puis on devrait tous en être conscients parce que est-ce qu'on méritait l'amour de Dieu? Est-ce qu'on méritait son sacrifice à la croix? Il l'a fait avant même que les êtres humains méritent quoi que ce soit. Puis il nous appelle à être comme lui. Pareil. Puis à donner de notre amour, sans même que la personne à qui on le donne le mérite, et sans même s'attendre à quoi que ce soit en retour. Parce qu'en Jésus-Christ, on a tout ce dont nous avons besoin. Je n'ai pas besoin du retour de l'appareil, parce que je suis déjà comblé en Christ. Quand Jésus est venu marcher sur la terre, il n'est pas venu comme un roi qui était là pour prendre, parce qu'il y avait déjà comme la majorité des rois font, hein? Ils prennent du terrain, ils prennent les impôts, ils prennent pour affermir leur statut de roi. Mais Jésus, absolument pas. Il est venu pour donner, parce qu'il y avait déjà tout en son Père. Et c'est la même chose pour nous. On a tout en Jésus-Christ. Je peux donner sans entendre quoi que ce soit en retour, parce que j'en ai trop. J'en ai trop. Et c'est de cette façon-là que Dieu nous appelle à répandre son amour et à donner. Rendre le bien pour le mal, quand quelqu'un nous fait le mal, le rendre pour le bien. Puis ça, c'est, bon, la référence, la version, c'est pas mis à jour. C'est dans Romains chapitre 12, versets 17 à 21. Là, le verset 21, ça sera pas mis. Ça dit comme ça, « Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes, autant que possible. » Et dans, je pense que je vais le lire ici, parce que je vais me perdre. « Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes, autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous. Vivez en paix avec tous les hommes. » Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « C'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est à moi qui, rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais du chardon ardent sur la tête. » Et ça va l'appeler à regarder à Dieu et à considérer Dieu. Donc, quand on fait du bien à des gens qui font du mal, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On n'est pas en train d'agir comme les autres êtres humains sur la terre. On est en train de faire quelque chose qui est au-delà de l'imaginable pour ton ennemi. En le faisant du bien, on est en train de faire quoi? On est en train de rendre gloire à Dieu. On est en train de faire briller la lumière du Seigneur dans ce monde. De cette façon-là, comme on voit que Dieu nous appelle à faire en Matthieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ouvert dans Romains 12? Pouvez-vous lire verset le 21? Il est pas, je l'avais mis dans mon PowerPoint, ce n'est pas mis à jour.
Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien.
Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est à ça qu'on est appelé. Quand on agit comme les autres êtres humains, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de se laisser vaincre par le mal. On est en train d'agir dans notre propre système de justice en tant qu'être humain. Et puis, c'est normal, puis c'est correct. C'est ce à quoi les gens s'attendent. Mais les choses de ce monde ne sont pas les choses de Dieu. On est en train de se laisser vaincre par l'ennemi en rentrant dans ce système-là qui ne rend pas gloire à Dieu. On est appelé à aller au-delà de ça. C'est quoi mon prochain? Être croyant dans Galates, oui, dans Galates 6, 10. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Dieu nous appelle à faire le bien à tous les hommes. Mais entre les membres de la famille, en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants, il y a une attention particulière à ceux qui font partie de la famille de Dieu, aux frères et sœurs. Donc, quand notre service pour le Seigneur ensemble nous amène la souffrance, une attention particulière de les aimer encore plus que ceux qu'on est supposé d'aimer tout le temps autour de nous, parce qu'on fait partie de la famille de Dieu. 1 Timothée 5,8, « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. » C'est quelque chose, c'est fort. L'amour entre nous, entre les frères, les sœurs, est très précieuse et elle n'est pas à négliger. Souvent, on dit que c'est plus facile de travailler avec des gens qui ne partagent pas notre foi que des croyants. C'est triste. On est appelé à s'aimer, à prendre soin, puis à persévérer dans l'amour, dans ce à quoi Dieu nous appelle. De quelle façon c'est possible qu'on arrive à faire ça? Comment y arriver? C'est une grâce. Quand on est vraiment atteint profondément par une situation qui est causée par le service pour l'avancement de l'œuvre de Dieu avec des frères, des sœurs, puis que la situation vient vraiment nous chercher puis nous atteindre. Comment est-ce qu'on peut arriver à bénir et à faire du bien comme ça? À celui qui est la source, à notre Dieu de notre souffrance. En faisant confiance à Dieu? En mettant notre confiance en Dieu? En prenant nos responsabilités, puis en obéissant? C'est un découlant de notre relation avec Dieu. Se rappeler qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. C'est un attachement continuel à lui. Oui? C'est une marque de respect à son égard. On a besoin de l'Esprit Saint. En pardonnant, en accordant le pardon. Oui. En portant notre croix. Oui. D'être conscient que ce monde a son lot de souffrances. En l'acceptant. D'aller se faire consoler par Jésus. Mm-hmm. C'est tellement important d'être attaché à la personne de Jésus puis d'être en relation avec lui. Tous ces éléments-là qu'on a parlé se mettent tout ensemble. C'est pas une chose qui va faire toute la différence. C'est un ensemble de choses qui sont vraies dans ma vie, qui sont présentes dans ma vie, qui vont me permettre d'agir d'une façon qui est complètement incompréhensible pour un être humain ou impossible par lui-même de faire. D'être capable d'aimer notre ennemi, de lui donner de l'amour, bien, il faut premièrement se sentir aimé. Il faut premièrement être en sécurité quelque part pour être capable de faire ça. D'aimer quelqu'un qui n'est pas aimable ou qui est dangereux, qui pourrait se revirer, ou je ne sais pas, c'est dangereux, on ne veut pas s'en aller vers là. Mais il faut être en sécurité quelque part pour être capable de faire ça. Il faut être détaché des conséquences de ça que le monde peut nous apporter. Il faut être en sécurité quelque part. Et pour aimer comme Jésus nous appelle, il n'y a pas d'autre endroit qu'en lui qui va rendre ça possible. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas une question de ce que je fais, de ce que je ne fais pas. C'est un état d'être dans lequel Dieu nous appelle à être, qui va rendre tout ça possible. Et comment se retrouver dans cet état d'être-là qui va rendre tout ça possible? C'est dans l'intimité avec Jésus, qui va nous emmener à être capable de pardonner, qui va être capable de nous emmener à passer par-dessus l'offense, qui va être capable de nous emmener à donner sans attendre à recevoir, parce que je vois et je considère tout ce que j'ai. Je le vois. Dans Éphésiens chapitre 3, Paul il nous appelle à voir l'amour, la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Puis il prie Dieu que chacun d'entre nous comprenne la profondeur, la largeur, la hauteur de son amour. Si on ne l'a pas pour nous, si on ne l'a pas vu, si on ne l'a pas reçu, si on ne l'a pas compris, on ne sera pas en mesure de faire ça. Dans notre service les uns pour les autres, on ne sera pas en mesure de mettre ces éléments-là en application si on ne se sent pas profondément aimé de Dieu. Tous les jours, on a besoin de recevoir une bonne portion d'amour. Puis on sait que Dieu va nous donner tout ce qui est nécessaire pour cette journée, une journée à la fois. Oui. Oui, Dieu l'accomplit à travers nous. Oui. Et voilà. On ne peut pas jouer aux chrétiens. On ne peut pas faire semblant dans ces choses-là. On ne peut pas. Oui. Ouais. Puis il faut accueillir cette transformation-là que Dieu veut faire. Quand on est vraiment dans une situation difficile, puis tu sais que Dieu t'appelle à l'aimer, il faut que tu laisses Dieu faire son œuvre, puis que tu tombes à genoux. Chacune de ces situations-là qu'on traverse, c'est une opportunité. Vous l'avez vu quand vous avez regardé les conflits. Chaque conflit est une opportunité de vivre à nouveau l'Évangile, de faire un pas de plus vers Jésus dans son Évangile et un pas de plus pour nous libérer d'un enjeu, de quelque chose dans nos cœurs. C'est toutes ces choses-là mises ensemble qui vont nous permettre, en tant que frères et sœurs, de travailler ensemble pour l'avancement de son œuvre. Et quand les situations vont arriver, de ne pas laisser ces situations-là détruire l'œuvre que Dieu est en train de faire. Si chacun d'entre nous, on met ce que Dieu nous appelle à l'œuvre, chaque conflit, chaque difficulté va résulter en une expression concrète et tangible de ce qu'est l'Évangile. L'amour, la réconciliation les uns les autres, et puis cette intimité, cette relation-là qui va être restaurée à travers la situation. Si on s'attache à Dieu, si on regarde vraiment à Dieu, pleinement à lui, et c'est des choses qu'on se rappelle tous les jours de notre vie, dans notre service. On a besoin de garder les yeux constamment vers lui. Allons dans la prière. Seigneur Jésus, merci. Merci premièrement pour la famille que tu nous donnes. Merci, Père éternel, pour ses frères, ses sœurs. Ils sont tellement précieux, Seigneur Jésus. Merci. Merci de nous emmener ensemble aujourd'hui, qu'on puisse célébrer ton nom, élever ton nom, se rappeler, Père éternel, à quel point tu nous aimes, à quel point, Seigneur, ce que tu as fait pour nous est précieux. Merci de nous avoir aimés les premiers. Seigneur, aujourd'hui, dans ta parole, on voit que tu nous appelles à aimer même ceux qui sont nos ennemis. Parce que toi-même, Seigneur, tu n'as pas attendu qu'on soit ton ami pour aller à la croix pour nous, Seigneur. Tu nous appelles à marcher comme toi tu as marché, à aimer comme toi tu as aimé. Seigneur, viens mettre en lumière les enjeux dans nos cœurs qui nous empêchent, Père éternel, de pleinement vivre et mettre en application ce à quoi tu nous appelles. C'est impossible pour chacun de nous, Seigneur Jésus. Viens mettre en lumière dans les enjeux de nos cœurs, Père éternel, dont tu veux nous délivrer, nous restaurer, Seigneur, à travers ces situations de conflit. Qu'on puisse, Seigneur Jésus, avoir la foi, le courage de tout te remettre, de déposer à ta croix, Père éternel, et de te laisser nous restaurer. De te laisser, Seigneur, nous convaincre que tu as payé pour l'offense qui nous a été faite dans cette situation. Et qu'on a tout maintenant pleinement en toi. qu'on peut aller vers nos frères, nos sœurs, vers nos ennemis, puis les aimer comme toi tu nous aimes. On n'a rien à perdre, on n'a rien à gagner, parce qu'on a déjà tout en toi. Seigneur, viens nous donner cette liberté, Père éternel, d'aimer comme toi tu aimes. Dans le précieux nom de ton Fils, que nous te prions. Amen.